Oui, il y aura des grèves et des manifestations de colère. Nous en sommes convaincus. Et c'est au travers de ces combats que notre classe prendra conscience de sa force et de ses intérêts collectifs. Comme le disait Fernand Peloutier, qui participa à la fondation de la CGT, je le cite, « Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur. C'est de connaître les causes de sa servitude. C'est de pouvoir discerner contre quoi doivent être dirigés ses coups. » Oui, nous avons beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de faux amis. Alors, il nous faut avoir les idées claires pour éviter toutes les impasses vers lesquelles les tenants de ce système voudront nous conduire. Notre force, c'est le nombre, bien sûr, car nous sommes des millions face à une poignée de parasites capitalistes. Mais justement, pourquoi cette minorité semble-t-elle aujourd'hui la plus forte? Parce qu'elle est forte de nos divisions. Nous sommes nombreux, certes, mais nous vivons des situations différentes. Différence entre ce que vivent les femmes et les hommes, entre celles et ceux qui ont des nationalités différentes, entre les actifs et les retraités, entre ceux qui ont un travail et ceux qui aimeraient bien en avoir, entre les ouvriers, les employés et les cadres, et même entre ouvriers. Alors sur les chaînes de montage où je travaille, chez Airbus, il y a les embauchés et les sous-traitants, avec chacun une tenue de travail de couleur différente. Il y a les intérimaires, les apprentis, ceux qui sont à temps partiel et ceux qui sont auto-entrepreneurs, ceux qui sont en équipe et ceux qui travaillent le week-end. À l'usine, même si tous nous faisons des travaux équivalents et utiles, car nous fabriquons quand même des moyens de transport, nous sommes divisés, car nous avons des classifications différentes, des spécialités différentes, des salaires différents. Toutes ces différences sont autant de divisions qu'utilise et entretient le patron pour nous empêcher de voir ce qui nous unit tous. Et il faut dire que les dirigeants des organisations syndicales ne font pas grand-chose pour s'y opposer. Et bien souvent même, ils le théorisent en expliquant qu'il y aurait une politique et un langage différent à avoir selon que l'on soit cadre, technicien ou ouvrier. Ce qui nous unit tous, au-delà des statuts des uns et des autres, c'est que sans le travail de tous, rien n'est produit. Et surtout, ce qui doit nous unir, c'est que nous avons le même adversaire qui vit de notre exploitation. Alors ils nous appellent leurs collaborateurs ou leurs compagnons. C'est le terme employé pour nommer les ouvriers chez Airbus. Ce qui fait très animal de compagnie, moi, je trouve. Voilà. Non, nous ne sommes pas des collaborateurs, car il n'y a aucune collaboration possible entre nous et ceux qui réduisent nos temps de pause, augmentent les cadences, rognent sur la sécurité, nous paient juste de quoi nous permettre de revenir le lendemain à l'usine, nous font le chantage à l'embauche, nous demandent jour après jour de sacrifier notre santé au travail. Nous ne sommes pas les collaborateurs des actionnaires, nous sommes une seule et même classe, la classe ouvrière. Alors voilà ce qu'est, à notre sens, commencer à connaître la science de notre malheur. Face à ceux qui entretiennent les divisions, il faut opposer la conscience de notre unité à nos exploiteurs. Et pour la défense de nos intérêts en tant que classe sociale, il nous faut des objectifs qui nous unissent. Contre le chômage des uns et la surexploitation des autres, il faut imposer le partage du travail entre tous, sans perte de salaire. Contre les paies ou les allocations, qui permettent à peine de vivre jusqu'au 10 ou au 15 du mois, il faut imposer l'augmentation générale des salaires avec leur indexation sur les prix. Et pour le financer, il faut prendre sur les profits qu'ils réalisent sur notre travail. Et si ces grands patrons lèvent les bras au ciel devant ces revendications, pourtant du bon sens, qu'ils nous montrent leur vraie comptabilité. On verra alors que non seulement ils ont les moyens, mais qu'en plus on n'aurait pas besoin d'eux et que nous pourrions diriger la société dans l'intérêt de tous. Donc voilà ce dont il faut convaincre les nôtres. Voilà ce à quoi peut servir un parti des travailleurs. Donner des vrais objectifs de lutte quand les luttes viendront et se généraliseront. Car elles viendront tôt ou tard. Nous ne savons pas ce qui mettra le feu aux poudres. La future attaque contre les chômeurs, la future réforme des retraites, voire même le mot de trop méprisant de ceux qui nous gouvernent. Nous ne savons pas quelle sera la mesure de trop qui allumera la mèche, mais il faut s'y préparer. Voilà à quoi peut servir un parti qui représente les intérêts des travailleurs. Convaincre autour de nous de ses objectifs, se regrouper, s'organiser, se conforter, pour trouver les arguments, pour profiter de toutes les situations pour faire avancer les idées de la lutte de classe. Il s'agit de proposer une alternative à ceux qui ne veulent plus subir. Il s'agit de s'opposer à ceux qui croient encore à l'homme providentiel ou à la magie du cirque électoral. Quant aux jeunes générations qui sont sensibilisées par les inégalités, les injustices, le racisme, le nationalisme, les discriminations de toutes sortes, les guerres, les menaces sur l'environnement, bref, l'avenir incertain que leur réserve cette société, ils ont leur place dans le combat de la classe ouvrière pour l'émancipation de toute la société. Oui, il faut construire ce parti des travailleurs tel qu'il était au début du mouvement socialiste ou au début du mouvement communiste, c'est-à-dire un parti réellement révolutionnaire. Et nous avons besoin de vous pour tout ça. Aidez-nous, vive le pouvoir des travailleurs, vive le communisme.